Chapitre 11. Je me réveillais juste au moment où le vaisseau se posait. Hyperion, murmurai-je intérieurement, occupé à démêler mes pensées des lambeaux de rêve auxquels elles adhéraient encore. Le jeune lieutenant nous souhaita bonne chance et descendit le premier lorsque le diaphragme de la porte s'ouvrit et qu'un air frais et léger remplaça la moiteur pressurisée de la cabine. Je suivis Hunt sur la rampe inclinée standard qui descendait sur le tarmac. C'était la nuit. Je n'avais aucune idée de l'heure locale. J'ignorais si le terminateur de la planète venait de passer cette zone ou s'il était en train de s'en approcher, mais j'avais plutôt l'impression que c'était le soir. Il pleuvait doucement. C'était une bruine chargée de senteurs océaniques et de parfums végétaux. Des balises éclairaient les pistes et une vingtaine de tours éclairées projetaient leur halo sur la couche de nuages bas. Une demi-douzaine de marines en uniforme étaient déjà en train de décharger rapidement le vaisseau. Je vis notre jeune lieutenant en conversation avec un officier à une trentaine de mètres de nous sur la droite. Le petit port spatial semblait sortir tout droit d'un livre d'histoire. Il ressemblait à un port colonial des premiers temps de l'Égyre. Des fosses de refroidissement primitives et des dalles de stationnement s'étalaient sur plus de 2 kilomètres en direction de la masse noire des collines du Nord. Des portiques et des tours de service assuraient la maintenance de dizaines de navettes militaires et de petits vaisseaux de guerre autour de nous. Les zones d'atterrissage étaient environnées de constructions militaires modulaires surmontées d'antennes en faisceaux et entourées de champs de confinement mauves et de toutes sortes de glisseurs et d'appareils aériens. Suivant le regard de Hunt, je remarquai un glisseur en train de descendre vers nous. Le symbole géodésique bleu et or de l'hégémonie, gravé sur un côté de sa jupe, était illuminé par ses feux de route. La pluie ruisselait sur sa verrière avant et formait un violent rideau de bruine à l'approche dessoufflante. Le glisseur se posa, une verrière en perspex se souleva et un homme en sortit. Il vint aussitôt vers nous sur le tarmac à pas rapides. « Ash Hunt ? » demanda-t-il en lui serrant la main. « Je suis Théolaine. »«
Ravi de vous connaître, gouverneur, » fit Hunt en me désignant d'un signe de tête. « Je vous présente Joseph Severn. »
Le gouverneur général me serra la main. J'avais l'impression de le connaître déjà à travers les souvenirs brumeux du consul au temps où Lane était son adjoint. Il s'était également revu, 8 jours plus tôt, lorsqu'il était venu saluer les pèlerins en partance à bord de la barge de lévitation Benares. Il semblait plus vieux que l'image d'une semaine que j'avais de lui, mais la mèche de cheveux rebelles sur son front n'avait pas changé, non plus que les lunettes archaïques et la brève poignée de main.
« Je suis ravi que vous ayez trouvé le temps de descendre à la surface, » dit-il à Hunt. « J'ai plusieurs communications à faire à la présidente. »«
Nous sommes ici pour cela, » répondit Hunt en jetant un regard oblique à la pluie. « Nous disposons d'une heure environ. Y a-t-il un endroit où nous pourrions parler au sec ?»
Le gouverneur général eut un sourire juvénile.
« Même à 5h30 du matin, les installations du port sont un véritable asile de fous, et le consulat ne vaut guère mieux. Mais je connais un endroit tranquille, »
ajouta-t-il en désignant son glisseur. Lorsque nous décollâmes, je remarquai que 2 appareils nous escortaient discrètement. Mais j'étais tout de même surpris que le gouverneur général d'un protectorat pilote son propre glisseur et n'ait même pas un garde du corps dans la cabine. Puis je me souvins de ce que le consul avait souvent dit aux autres pèlerins sur l'efficacité et la discrétion de son ancien adjoint. Ce comportement était en accord avec le style habituel du diplomate. Le soleil se leva au moment où nous prenions de l'altitude pour virer en direction de la ville. Des nuages bas brillaient comme s'ils étaient illuminés de l'intérieur. Les collines du nord étaient parées de paillettes vertes, mauves et mordorées, et la bande de ciel au-dessous des nuages, à l'est, avait cet extraordinaire vert lapis que j'avais déjà vu dans mes rêves. Hyperion. Ma gorge se serrait d'angoisse et d'excitation. Je penchai la tête du côté de la verrière ruisselante de pluie et pris soudain conscience de ce que l'impression d'angoisse et de confusion que je ressentais depuis un moment venait en fait du contact beaucoup plus ténu que j'avais avec l'infosphère. Les connexions existaient toujours, principalement sur mégatrans et hyperfréquences, mais jamais je ne les avais senties aussi fragiles. Si l'infosphère avait été un océan dans lequel je nageais,
On aurait pu dire que mon ventre commençait à racler le fond. En fait, j'étais dans une flaque d'eau, et le niveau baissait à mesure que nous nous éloignions du port spatial et de sa relative microsphère. Je me forçais à prêter attention à la conversation entre Hunt et le gouverneur général.
« Regardez les bidonvilles !»
nous dit-il en inclinant l'appareil pour que nous ayons une meilleure vue des collines et des vallées qui séparaient le port spatial des faubourgs de la capitale. Bidonville était un euphémisme pour décrire l'incroyable agglomération de taudis faits de panneaux de fibroplaste, de vieux cartons et de déchets de mousse lovée qui couvraient presque la totalité des collines et des ravins. Le paysage, sans doute autrefois apprécié des habitants de la ville qui parcouraient les 10 ou 12 kilomètres de route boisée pour se rendre à l'aéroport, avait été dépouillé de tout ce qui pouvait servir à allumer du feu ou à constituer un abri. Les champs piétinés par d'innombrables réfugiés étaient devenus de véritables plaines de boue. 700 ou 800 000 sans-abri occupaient chaque centimètre carré de terrain plat disponible. La fumée de milliers de foyers improvisés montait vers nous. Il y avait du mouvement partout. Des enfants couraient pieds nus, des femmes allaient chercher de l'eau dans des cours d'eau qui devaient être terriblement pollués, des hommes étaient accroupis dans les champs ou faisaient la queue devant des latrines improvisées. Je remarquais que des rangées de barbelés et des champs de confinement mauve avaient été placés de part et d'autre de la route, avec des postes de contrôle militaire à peu près tous les kilomètres. De longues files de blindés et de glisseurs militaires de la force circulaient dans les deux sens sur la route et dans des couloirs à basse altitude. « Que la plupart des réfugiés sont des indigènes », était en train de dire le gouverneur général. Mais il y a aussi plusieurs milliers de personnes déplacées parmi les propriétaires terriens des villes du Sud et des grandes plantations de fibroplastes d'Aquila.
« Ce sont les risques d'invasion extro qui les ont fait fuir ?» demanda Hunt.
Theo Lane se tourna vers le collaborateur de Gladstone pour le regarder d'un drôle d'air. À l'origine, ils étaient paniqués à l'idée que les tombeaux du temps allaient bientôt s'ouvrir. Ils étaient sûrs que le Gritch allait venir les prendre.
« Et leur crainte était fondée ?» demandai-je.
Il changea de position dans son fauteuil de pilotage pour se tourner vers moi.
La 3e Légion des Forces Territoriales a fait route vers le nord il y a quelques mois de cela, me dit-il. Elle n'est jamais revenue.
Vous dites que les réfugiés fuyaient le Gritch à l'origine ?
Fit Hunt.
Quelle autre raison avait-il ensuite ?
Ils attendaient l'annonce de l'évacuation générale. Tout le monde ici est au courant de ce que les extros et les troupes de l'hégémonie ont fait à Brescia. Personne ne souhaite se trouver sur cette planète quand les mêmes événements se produiront.
Vous savez que la Force considère l'évacuation comme un tout dernier recours.
Oui, mais nous ne voulons pas annoncer cela aux réfugiés. Il y a déjà eu des émeutes sanglantes. Le temple Gritchtek a été détruit. La foule l'a assiégé et quelqu'un s'est servi de charge au plasma volé dans les mines d'Ursus. La semaine dernière, il y a eu des attaques contre le consulat et le port spatial. Des magasins ont été pillés dans la vieille ville de Jacktown.
Hunt hocha lentement la tête tandis que le glisseur approchait de la cité. Les bâtiments étaient bas. Peu de constructions avaient plus de 5 étages. Les murs pastels ou blancs luisaient sous les rayons obliques du soleil levant. Je regardais, par-dessus les épaules de Hunt, la montagne basse où était sculpté le visage morose de Billy le Triste qui dominait la vallée. Le fleuve Ouli faisait des méandres au centre de la vieille ville et redressait son cours avant de continuer vers le nord en direction de la chaîne bridée invisible. Il se perdait quelque part dans les marais de Vort au sud-est, où je savais qu'il formait un delta occupant une partie de la crinière. La cité avait l'air particulièrement déserte et paisible après le triste chaos des baraques de réfugiés. Mais lorsque nous commençâmes à descendre vers le fleuve, je remarquai l'ampleur de la circulation militaire et le nombre de blindés, de véhicules à chenilles et autres engins militaires au carrefour et dans les jardins publics, leurs polymères de camouflage délibérément désactivés, pour les rendre plus menaçants. J'aperçus aussi les tentes de fortune des réfugiés installées dans les parcs et les terrains vagues. Des milliers de personnes semblaient dormir sur les trottoirs, le long des caniveaux, comme des paquets de linge sale attendant qu'on vienne les ramasser.
Kitz avait une population de 200 000 âmes il y a 2 ans, nous expliqua le gouverneur général. Aujourd'hui, si l'on compte les bidonvilles, elle atteint aisément les 3,5 millions.
Je croyais que la population totale de la planète, indigène y compris, ne dépassait pas 100 millions,
s'étonna Hunt.
C'est exact. Vous comprenez, maintenant, pourquoi nous disons que tout est en train de s'écrouler? Les deux autres grandes villes de la planète, Port-Romance et Endymion, ont accueilli presque tout le reste des réfugiés. Les plantations de fibroplastes d'Aquila ont été désertées. La jungle et les forêts des flammes les envahissent. Les exploitations agricoles de la crinière et des neuf queues ne produisent plus rien ou sont incapables de faire parvenir leur production sur le marché en raison de l'effondrement du système de transport civil.
Hunt gardait les yeux fixés sur le fleuve qui montait rapidement vers nous.
« Que fait le gouvernement ? » demanda-t-il.
Théolaine eut un sourire.
« Vous voulez savoir ce que je fais ? »
Il y a près de 3 ans que dure cette crise. La première mesure a été de dissoudre le Conseil intérieur et de revendiquer officiellement le statut de protectorat pour Hyperion. Armé des pleins pouvoirs, j'ai procédé à la nationalisation des compagnies de transport et des lignes de dirigeables encore en exercice. Seuls les militaires continuent de se déplacer par glisseur dans l'atmosphère d'Hyperion. Enfin, j'ai dissous les forces territoriales.
« Pourquoi cela ?» demanda Hunt. « Elles auraient pu vous servir. »
Lane secoua la tête. Il inclina d'un geste sûr la colonne de pilotage et le glisseur descendit en spirale vers le centre de la vieille ville.
« Ils étaient plus dangereux qu'utiles, » déclara-t-il. « La perte de la 3e légion d'élite des forces territoriales ne m'a pas perturbé outre mesure. Dès que l'infanterie de la force et les marines sont arrivées sur la planète, j'ai désarmé les bandes de FT qui étaient à l'origine de la plus grande partie des pillages. »
Voici l'endroit tranquille où nous pourrons continuer de bavarder en prenant le petit déjeuner.
Le glisseur rasa la surface du fleuve, fit un dernier cercle et se posa souplement dans la cour d'un bâtiment ancien en bois et en pierre, aux fenêtres ouvragées avec art. Chez Cicéron, avant même que Lane eût prononcé ce nom à l'intention de Hunt, j'avais reconnu l'endroit où les pèlerins s'étaient arrêtés. La vieille taverne auberge-restaurant occupait au cœur de Jacktown un pâté de 4 immeubles sur 9 niveaux. Ses balcons, ses quais et ses galeries de bois de Vorte donnaient sur le fleuve Ouli d'un côté et sur les étroites ruelles de Jacktown de l'autre. L'endroit était plus ancien que le visage de pierre de Billy le Triste sculpté sur la colline, et ses salons tamisés et ses caves à vin avaient servi de domicile au consul durant ses années d'exil sur cette planète. Stan Levesky nous accueillit sur le seuil. C'était un géant, à la carrure massive et au visage d'aspect aussi ancien et tavelé que les vieux murs de pierre de sa taverne. Cicéron, c'était lui, de même que cela avait été son père, son grand-père et son arrière-grand-père avant lui.
« Nom de Dieu !»
tonna le géant en donnant une grande claque sur l'épaule du gouverneur général et dictateur de la planète.
« Tu es bien matinal aujourd'hui, hein? Tu m'amènes tes amis pour déjeuner? Bienvenue à tous chez Cicéron !»
Son énorme poigne engloutit la main de Hunt, puis la mienne, dans une vigoureuse secousse qui me donna envie de vérifier si mes articulations étaient encore en état de fonctionner.
« Mais c'est peut-être encore la nuit pour vous, au temps du Retz !»
reprit la voix beuglante du tavernier.
« Vous voulez dîner ? Ou bien prendre un verre ?»
Leg Hunt lui lança un regard oblique.
« Comment savez-vous que nous sommes du Retz ? »
demanda-t-il. Levesky éclata d'un rire sonore qui dut faire tourner toutes les girouettes sur le toit.
Oh, « oh, oh. Perspicace, hein ? Vous arrivez ici avec Théo à l'aube. Vous croyez qu'il a l'habitude de promener les gens à cette heure ? Vous portez des vêtements de laine alors que nous n'avons pas de moutons ici. Vous n'êtes pas militaire de la force, ni des gros planteurs de fibroplastes. Je les connais tous. Vous vous êtes donc distransporté sur un vaisseau du Retz et vous êtes descendu ici pour y pailler. C'est QFD à m'aider. Alors, vous voulez de quoi vous rincer la dalle ou déjeuner ? »
Théolaine soupira.
« Trouve-nous un coin tranquille, Stan. Pour moi, ce sera des œufs au bacon avec des keepers. Messieurs ? » ?»«
Juste un café, » dit Hunt.
« Moi aussi, » déclarai-je.
Nous suivions maintenant le patron dans un corridor, au bout duquel un escalier à la rampe en fer forgé nous fit grimper dans une salle encore plus sombre, au plafond plus bas et à l'atmosphère plus enfumée que dans mon rêve. Quelques clients levèrent la tête sur notre passage, mais il y avait beaucoup moins de monde que le jour où les pèlerins étaient venus ici. Visiblement, Lane s'était occupé de faire décamper les hordes de barbares des FT qui occupaient alors les lieux.
Nous passâmes devant une haute fenêtre et je pus vérifier aussitôt ma déduction lorsque j'aperçus un blindé de la force stationné dans la cour intérieure et entouré de militaires décontractés aux armes bien en évidence et chargés.
« Là !»
nous dit Levesky en nous faisant entrer dans une petite véranda qui surplombait le fleuve et donnait vue sur les toitures à pignons et les tours de pierre de Jacktown.
« Tommy va vous apporter votre commande dans un instant !»
Il s'éclipsa avec une vivacité surprenante pour un géant.
« Il nous reste environ 45 minutes avant le retour du vaisseau de descente, » déclara Hunt après avoir consulté son persoc. « Profitons-en pour discuter un peu. »
Lane hocha la tête. Il retira ses lunettes et se frotta les yeux. Je me rendis compte qu'il ne s'était pas couché cette nuit. Peut-être ne dormait-il pas depuis plusieurs jours.
« Très bien, » dit-il en remettant ses verres en place. « Que veut savoir la présidente ?»
Hunt marqua un instant de pause, tandis qu'un petit homme à la peau blanche et parcheminée et aux yeux jaunes nous apportait du café dans des tasses épaisses et posait un plateau chargé devant Lane.
« Gladstone veut savoir quelles sont vos priorités. Elle voudrait également que vous lui disiez si vous pensez pouvoir tenir le coup ici en cas de conflit prolongé. »
Lane mangea quelque temps avant de répondre. Il but une longue gorgée de café, puis fixa son regard sur Hunt. C'était du vrai café, à en juger par le goût, meilleur que celui que l'on produisait dans le Retz.
« Prenons votre dernière question d'abord, »
fit Lane.
« Qu'entendez-vous par prolonger ?»«
Quelques semaines. »«
Quelques semaines, peut-être. Certainement pas des mois. »
« Vous constatez l'état de notre économie, » poursuivit le gouverneur général en goûtant un keeper.
« Sans l'assistance alimentaire de la force, nous aurions des émeutes chaque jour au lieu d'une fois par semaine. La quarantaine nous empêche d'exporter. La moitié des réfugiés veulent tuer les prêtres du temple et les autres veulent se convertir avant l'arrivée du Gritch. »
« Vous savez où se cachent les prêtres ?» demanda Hunt.
« Non. Nous sommes certains qu'ils ont échappé aux bombes, mais les autorités n'ont pas pu retrouver leurs traces. Le bruit court qu'ils sont montés vers le nord pour se réfugier dans la forteresse de Chronos, qui domine les hauts plateaux où se trouvent les tombeaux du temps. »
Je savais que cette rumeur n'était pas fondée. Les pèlerins, en tout cas, n'avaient vu aucun prêtre Gritchtek pendant leur bref séjour à Chronos. Mais il y avait partout des signes de massacre.
« Quant aux priorités, » déclara Théolaine, « la première est l'évacuation, la deuxième, l'élimination de la menace extro, et la troisième, la réduction de la panique liée au Gritch. »
Leg Hunt s'adossa au lambris vernissé, sa lourde tasse de café fumant dans les mains.
« L'évacuation n'est pas envisageable pour le moment, » dit-il.
« Pourquoi ?»
riposta aussitôt Lane.
« La présidente n'a pas, à ce stade, le pouvoir politique suffisant pour convaincre le Sénat et l'Assemblée de la Pangermie d'accepter 5 millions de réfugiés en son...
« Foutaise !»
tonna le gouverneur général.
« Il y a eu un afflux de touristes 2 fois plus important sur Alliance Maui la première année du protectorat. Et cela a détruit une écologie planétaire unique. Mettez-nous sur Armagast ou sur n'importe quel monde désertique jusqu'à la fin de la guerre !»
Hunt secoua la tête. Ses yeux de Basset paraissaient encore plus tristes que d'habitude.
« Il n'y a pas que l'aspect logistique ou politique, » dit-il. « C'est... »
« Le Gritch, »
fit Lane en coupant son bacon.
« C'est le Gritch qui est la vraie raison. »
« Oui. De même que la peur d'une infiltration extra dans le Retz. »
Le gouverneur général éclata de rire.
« Vous craignez, si vous installez des portes d'Istran sur Hyperion pour nous évacuer, que des extras de 3 mètres de haut se glissent inaperçus parmi nous ?»«
Ce n'est pas cela, »
rétorqua Hunt après avoir bu une gorgée de café.
« Nous redoutons une invasion. Une porte d'Istran, c'est une ouverture sur le Retz. L'Assemblée consultative nous déconseille d'en installer une. »«
D'accord. Évacuez-nous par l'espace dans ce cas. » N'était-ce pas la raison de la venue de vos unités opérationnelles ?
La raison officielle, oui. Mais notre véritable objectif est de battre les extros et d'intégrer Hyperion au Retz.
Et la menace Grichtek ?
Elle sera éliminée, fit Hunt.
Il s'interrompit tandis qu'un petit groupe d'hommes et de femmes passait devant notre terrasse. Je les regardais distraitement, m'apprêtais à reporter mon attention sur notre table, puis tournais de nouveau vivement la tête vers le couloir où le groupe était déjà hors de vue. « N'est-ce pas Melio Arundes qui vient de passer ?» demandai-je, interrompant le gouverneur général au milieu d'une phrase.
« Pardon ? Le docteur Arundes ?
Oui.
Vous le connaissez, H.C. Verne ?»
Leg Hunt me regardait avec des yeux furibonds, mais je l'ignorais.
« Oui. »
répondis-je à Lane, bien que ce fût faux.
« Que fait-il donc sur Hyperion ?»«
Il est arrivé avec son équipe il y a 6 mois en temps local. Il travaille sur un projet de l'université de Reichs de Friholm. Ses recherches concernent les tombeaux du temps.
Je croyais qu'ils étaient interdits aux touristes et aux chercheurs.
C'est exact, mais leurs appareils, dont les données étaient relayées une fois par semaine par le mégatrans du consulat, avait déjà détecté les modifications des champs anentropiques entourant les tombeaux. Reich savait qu'ils étaient en train de s'ouvrir, si toutefois c'est bien là ce que signifient les modifications en question, et ils envoyaient les meilleurs chercheurs du RETS pour étudier le phénomène.
Mais vous ne leur avez donné aucune autorisation ? Theo Lane eut un sourire sans chaleur.
La présidente ne leur a donné aucune autorisation. La fermeture des tombeaux du temps résulte d'un ordre direct de TC carré. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais interdit le passage des pèlerins et donné la priorité aux recherches d'Arundes et de son équipe.
Il se tourna de nouveau vers Hunt. « Veuillez m'excuser, » leur dis-je en me levant pour sortir dans le couloir. Je trouvais Arundes et son groupe, 3 hommes et 2 femmes dont les vêtements et les styles suggéraient différents mondes du RETS, dans une petite salle située 2 terrasses plus loin. Ils étaient penchés sur des plateaux de petit-déjeuner et sur des persocs scientifiques. Leur conversation se faisait en termes assez abstrus pour rendre jaloux un talmudiste.
« Docteur Arundes ?»«
Oui ?»
fit-il en relevant la tête. Il avait 20 ans de plus que dans mon souvenir. Il ne devait pas être loin de la 60aine, mais son profil sympathique n'avait pas changé. Il avait le même teint bronzé, les mêmes mâchoires résolues, les mêmes cheveux noirs ondulés, à peine grisonnants aux tempes. Ses yeux noisettes étaient aussi perçants. Je comprenais qu'une jeune étudiante comme Rachel ait pu tomber rapidement amoureuse de lui. « Je m'appelle Joseph Severn, lui dis-je. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai bien connu l'une de vos anciennes amies, Rachel Weintraub. » Il fut debout en une fraction de seconde. S'excusant auprès des autres, il m'entraîna dans le couloir, puis dans une salle où nous nous trouvâmes un compartiment inoccupé, près d'une fenêtre ronde qui donnait sur des toitures rouges. Il me lâcha alors le bras et me dévisagea soigneusement, s'attardant sur mes vêtements rétiens. Il me prit les poignets pour les retourner afin de voir si j'avais subi un traitement Poulsen.
« Vous êtes trop jeune, » me dit-il, « à moins que vous ne l'ayez connu enfant. »
« C'est surtout son père que je connais bien, » lui dis-je. Il se détendit un peu et hocha plusieurs fois la tête.
« Je comprends, »
dit-il.
« Où est Sol ? » ?»« J'ai essayé de retrouver sa trace par l'intermédiaire du consulat, mais les autorités d'Hébron se contentent de dire qu'il a déménagé. « Vous êtes au courant de la maladie de Rachel ?»
me demanda-t-il en me dévisageant de nouveau. « Oui, » répondis-je. La maladie de Merlin avait fait régresser Rachel dans le temps. Chaque jour, elle avait perdu une partie de ses souvenirs, dont Melio Arundes faisait partie. Je sais que vous lui avez rendu visite il y a 15 années sur le monde de Barnard, ajoutai-je.
Ce fut une erreur de ma part,
répondit-il en faisant la grimace.
Je voulais parler à Sol et à Sarai. Quand je l'ai vue,
il secoua la tête.
Qui êtes-vous ?
Me demanda-t-il.
Savez-vous où se trouvent Sol et Rachel en ce moment ? Sa naissance n'est que dans 3 jours.
Je sais, répondis-je en hochant la tête. Je regardais autour de moi. Il n'y avait personne autour de notre table. Les seuls bruits que l'on entendait venaient d'une autre salle. Je suis ici en mission d'information pour le compte de la présidente, lui dis-je. Sol Weintraub et sa fille sont en ce moment dans la zone des tombeaux du temps. Arundes fit la même tête que si j'avais lancé mon poing dans son plexus solaire.
Ici ? Sur Hyperion ? J'aurais dû m'en douter,
ajouta-t-il après avoir contemplé les toits rouges pendant quelques instants.
Sol avait toujours refusé de revenir ici, mais maintenant que Sarai n'est plus là, êtes-vous en contact avec lui ? Est-ce qu'ils vont bien ?
Je secouai la tête. Nous ne sommes en contact ni par radio ni par l'infosphère pour le moment. Mais je sais qu'ils sont bien arrivés. Ce qui compte le plus, ce sont les informations scientifiques dont vous disposez sur ce qui est en train de se passer là-bas. Tout renseignement peut être vital pour leur survie. Melio Arundes se passa la main dans les cheveux.
Si seulement ils nous laissaient nous rendre sur place, ces maudits bureaucrates aux courtes vues. Vous dites que c'est Gladstone qui vous envoie ? Ne pourriez-vous pas leur expliquer l'importance de notre présence là-bas ?
Je ne suis qu'un messager, mais exposez-moi vos raisons et je tâcherai de transmettre les informations à quelqu'un. Les larges mains d'Arundes épousèrent dans l'air la forme d'un objet invisible. La rage et la tension étaient presque palpables chez lui.
Durant 3 ans, les données nous sont parvenues par télémesure avec les salves autorisées par le consulat une fois par semaine sur leur précieux mégatrans. Elles indiquaient une lente mais implacable dégradation de l'enveloppe anentropique, les marées du temps, aux environs et à l'intérieur des tombeaux. C'était un processus erratique, illogique, mais soutenu. Notre équipe a été autorisée à venir sur Hyperion peu après le début du phénomène. Il y a 6 mois que nous sommes ici. L'ouverture des tombeaux du temps s'est confirmée. Ils sont en train d'entrer en phase avec le présent. Mais à peine 4 jours après notre arrivée, les instruments ont cessé d'émettre, tous en même temps. Nous avons supplié ce salaud de Lane de nous laisser aller sur place pour les recalibrer ou d'installer lui-même de nouveaux détecteurs s'il ne voulait pas nous laisser y aller en personne. Et il n'y a rien eu à faire. Plus d'autorisation, plus de contact avec notre université, alors même que l'arrivée des vaisseaux de la Force aurait pu nous faciliter les choses. Nous avons essayé de remonter le fleuve sans permission, mais les marines nous ont interceptés aux écluses de Carla et nous ont ramenés ici avec des menottes au poignet. J'ai passé 4 semaines en prison. Aujourd'hui, nous avons le droit de nous déplacer dans les limites de Kitts, mais ils menacent de nous enfermer définitivement si nous quittons la ville. Pouvez-vous vraiment faire quelque chose pour nous ?
Il se pencha en avant en me regardant d'un air suppliant. « Je ne sais pas, » dis-je. « Je voudrais aider les Weintraub. Je pense que vous pourriez faire quelque chose si vous vous rendiez sur les lieux avec votre équipe. » Savez-vous à quel moment les tombeaux vont s'ouvrir ? Le physicien spécialiste du temps fit un geste de frustration.
Si seulement nous avions des informations récentes !
Soupira-t-il.
Non, je ne peux pas vous répondre. Ils sont peut-être déjà ouverts, ou bien ils s'ouvriront dans 6 mois.
Quand vous dites ouverts, vous ne voulez pas dire physiquement ?
Bien sûr que non. Les tombeaux du temps sont physiquement accessibles depuis 4 siècles et ils ont été inspectés de fond en comble. Quand ils s'ouvriront, ce sera comme si on écartait une tenture temporelle qui en dissimule certains aspects. Le complexe tout entier entrera en phase avec le flot du temps local.
Et par local, vous entendez...
Je veux parler de l'univers où nous sommes, naturellement.
Vous êtes certain que les tombeaux du temps se déplacent à reculons dans le temps et qu'ils viennent de notre propre avenir ?
Qu'ils se déplacent à reculons dans le temps ? Oui. Qu'ils viennent de notre avenir ? Nous n'en sommes pas certains. Nous ne savons même pas ce que signifie « avenir » en termes physico-temporels. Ce pourrait être une série de probabilités en ondes sinusoïdales, ou une branche de décision mégaverse, ou encore, de toute manière,
les tombeaux du temps et le Gritch en viennent.
Les tombeaux du temps, j'en suis sûr. Mais je ne suis absolument pas compétent pour vous parler du Gritch. Si vous voulez mon opinion, il s'agit d'un mythe nourri des mêmes superstitions que les vérités absolues formant la base des religions habituelles.
Même après ce qui est arrivé à Rachel, vous ne croyez pas au Gritch. Il me jeta un regard noir.
Rachel a attrapé la maladie de Merlin. Il s'agit d'un trouble anentropique du vieillissement, et non de la morsure d'un monstre mythique.
La morsure du temps n'a rien de mythique, répliquai-je, moi-même surpris de lui sortir cette vérité philosophique à bon marché. La question est de savoir si le Gritch ou je ne sais quelle autre puissance habitant les tombeaux du temps acceptera de réintégrer Rachel dans le flot local du temps. Arundes hocha la tête et se tourna de nouveau vers les toits. Le soleil était maintenant caché par les nuages et la matinée était grise. Les tuiles rouges avaient moins d'éclat. La pluie se mit à tomber. Le problème est aussi de savoir, repris-je en me surprenant une seconde fois, si vous êtes toujours amoureux d'elle. Il tourna lentement la tête pour me fixer d'un regard furieux. Je sentis la réplique, peut-être physique, monter en lui, atteindre un sommet, puis redescendre. Il plongea la main dans une poche de sa veste et la ressortit avec un holo d'une femme souriante, aux cheveux grisonnants, et de deux enfants d'un peu moins de 20 ans.
« Ma famille, » me dit-il. « Ils m'attendent sur le vecteur Renaissance. Si Rachel devait guérir aujourd'hui, » ajouta-t-il en pointant un doigt épais sur moi, « j'aurai 82 ans standard avant qu'elle atteigne l'âge auquel je l'ai rencontrée pour la première fois. Mais vous avez raison. » ajouta-t-il en abaissant son doigt pour remettre l'instantané holo dans sa poche. « Je suis toujours amoureux d'elle. »«
Vous êtes prêt ?» demanda quelques instants plus tard la voix de Hunt sur le seuil, rompant le silence qui s'était établi durant quelques instants.
« Notre vaisseau repart dans 10 minutes. »
Je me levai et serrai la main d'Arundes.
« Je ferai mon possible, » murmurai-je.
Le gouverneur général nous fit accompagner au port spatial par l'un des deux glisseurs de son escorte, tandis qu'il regagnait son consulat. L'engin militaire n'était pas plus confortable que le sien, mais il était plus rapide. Une fois notre harnais en place, Hunt me demanda
« Qu'est-ce que vous êtes allé faire avec ce physicien ?»«
C'est juste un vieil ami que je n'avais pas revu depuis longtemps, » lui dis-je.
Il fronça les sourcils.
« À quel propos lui avez-vous promis de faire votre possible ?»
Je sentis le vaisseau frémir, trépider, puis bondir tandis que la catapulte nous projetait vers le ciel. Je lui ai promis d'essayer d'intervenir pour qu'il puisse rendre visite à un ami malade. Hunt gardait les sourcils froncés, mais je tirai de ma poche un carnet d'esquisses et dessinai des scènes de chez Cicéron jusqu'à ce que nous accostions le vaisseau portier 15 minutes plus tard. Ce fut un choc que de nous retrouver, après avoir passé la porte d'Istrance, dans la maison du gouvernement. Quelques pas nous conduisirent dans la galerie du Sénat, où Mayna Gladstone était encore en train de parler devant une chambre pleine à craquer. Des imageurs et des microphones diffusaient ses paroles dans toute la Pangermie à 100 milliards de citoyens attentifs. Je consultai mon chrono. Il était 10h38. Nous n'étions restés absents que 90 minutes.